Aujourd'hui, nous continuons un petit peu sur le même thème que dimanche dernier. Donc, c'est un petit peu un amalgame entre Genèse chapitre 2, 3, 4, 5. Surtout, oui, c'est tous les 3, 4 chapitres, 2, 3, 4 et 5 de la Genèse. On va parler surtout aujourd'hui de la mort, du travail, de la sexualité. Donc, c'est un peu touche à tout. Et comme j'ai dit, c'est un peu suite au message de la semaine dernière. Donc, nous pouvons démarrer dans Genèse chapitre 2 et le verset 17. Genèse chapitre 2 et le verset 17. Où Dieu avait averti Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit au verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc c'est à partir de cette phrase-là, « Tu mourras certainement. » Et puis chapitre 2, verset 19, chapitre 2, verset 19, à la... attendez. Non, c'est chapitre 3, verset 19. Seconde moitié du verset, chapitre 3, verset 19. Jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, Dieu avait déjà parlé à Adam avant le péché en disant, tu ne mangeras pas parce que le jour que tu vas manger de cet arbre défendu, tu vas certainement mourir. Et puis, par la suite d'avoir mangé, Dieu a dit, tu vivras jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Donc, la chose qui est certaine dans notre vie, ce n'est pas notre richesse, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas nos amis. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on va mourir. On n'aime pas du tout y penser. On avait un voisin en Normandie, et monsieur, il était atteint d'un cancer. Il allait mourir. Mais on lui fait passer les touchures, tout un tas de choses. Ah, il se guérit, il va mieux. Il est mort quand même. On ne voulait pas penser à le fait qu'il allait vraiment mourir. Mais le fait, la réalité, c'est qu'on va tous passer. Il n'y a personne qui va pouvoir échapper. Mieux vaudrait être prêt. C'est ça la chose. On va mourir. Mais comment? Je veux dire, attitude. Quand on est face à la mort, quelle sera notre attitude? Il y a un traité, je ne sais pas si j'en ai un exemple ici. Les grands hommes et leur dernier mot avant de mourir. Et tous les témoignages des infirmières, des amis, la famille, qui ont enregistré leur terreur face à la mort. Donc, vous pouvez imaginer pourquoi un homme qui a 96 ans, il a décidé enfin qu'il a le temps de réfléchir à l'éternité. Hein, parce que déjà, passer le cap de 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, on sait que la vie n'a pas beaucoup plus de jours dans soi. Il faut vraiment réfléchir. Alors, d'un côté, la mort nous débarrasse des méchants. Voilà. Hein? Les gens dans les informations qui ont violé les personnes, qui ont tué des gens, qui ont massacré les étudiants, on dit, mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va leur nourrir, loger, blanchir dans la prison pendant 20 ans, et puis on va les relâcher. Peut-être qu'il y a une meilleure justice. Vous avez peut-être constaté dans les films et dans les livres que les méchants, ils meurent toujours. Et s'il ne meurt pas dans ce livre ou dans ce film, c'est qu'il y aura une séquelle, une suite.
Une seconde.
Une seconde, voilà. Il y aura une seconde ou une troisième ou toute une série. Aussi longtemps que le méchant est vivant, c'est la récidivité. Il restera toujours méchant. Et la mort doit nous débarrasser de cette personne néfaste. Bon, on va lire ce que Dieu a dit en Ézéchiel, chapitre 18. Vous n'êtes pas obligé de tourner, j'ai déjà une marque-page là. Ézéchiel, chapitre 18, je vais lire versets 31 et 32. Dieu parle à Israël dans leur méchanceté. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Donc, bien sûr, au lieu de vouloir la mort des méchants, Dieu devrait être notre cas aussi. On voudrait voir leur conversion à une vie bien différente. Convertissez au Seigneur Jésus pour être en paix avec Dieu, en règle avec Dieu, et puis vivre une vie de bienfaisance. Je parle de l'esprit. Mais quant vraiment aux malfaiteurs, leur disparition ne nous fait pas du tout de la peine. Quand un méchant disparaît, un Hitler, etc., on ne va pas donner les larmes. Okay? Par contre, la mort aussi nous prive de manière bien plus personnelle de ceux et de celles que nous aimons. Ça, c'est différent. En attendant la résurrection, la mort nous sépare de nos bien-aimés. Aujourd'hui, elle est là parmi nous, la personne que nous aimons, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents. Et puis, d'un coup, désormais, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. C'est l'absence totale, absolue de cette personne jusqu'à ce que nous allons pouvoir les rejoindre dans le monde à l'avenir. Bien sûr, il va falloir faire le deuil. Parce que c'est triste. C'est triste quand nos bien-aimés meurent. Donc quelqu'un plus proche, c'est plus douloureux que quelqu'un qui était plus loin. Mais c'est l'absence quand même de cette personne. C'est ça qui est le plus, dans un sens négatif, touchant, c'est leur absence. Parce qu'on vivait avec cette personne, on appréciait, on était encouragé, on côtoyait, on partageait, etc. Et puis, la personne n'est plus là. Bon, des fois, on sait que la mort va venir à travers une maladie, et des fois, c'est brutal par un accident de voiture, d'avion, etc. Heureusement, quand la personne laisse derrière elle un témoignage d'espoir concernant l'éternité, d'avoir mis leur confiance en Jésus-Christ par l'Évangile, eh bien, ça rend la chose bien moins douloureuse. C'est-à-dire, on sait que plus tard, on va rejoindre cette personne. Mais dans l'absence, et votre... Je ne sais pas un meilleur mot à dire, être gentil. Hein? Dans l'absence d'un tel témoignage, on peut toujours espérer que la personne s'est rendue à ses bons sens avant de partir. Mais on ne sait pas. Je me souviens, Sophie et moi sont allés voir son oncle avant qu'il est mort, à l'hôpital à San Francisco. Et il était tout prêt à mourir. Ses reins ne fonctionnaient plus, il était tout jaune et tout ça. Et il nous regardait avec les yeux de haine. Ah ben, c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Il n'avait aucun désir de nous voir parce qu'on était chrétiens. Et il est parti comme ça, dans l'éternité. La mort va venir, c'est certain, mais il faut être prêt. C'est ça que je veux dire. Depuis le début, quand Adam a péché, Dieu a dit, si tu pèches, tu mourras. Il est mort. Bon, pour lui, c'était 900 ans, quelque chose, bien plus tard. Mais pour nous, bah, on n'est plus à cette époque-là. Après, je voudrais parler un petit peu du travail. Genèse chapitre 2, on va lire verset 18. Pourquoi j'ai dit 2? C'est chapitre 3. J'ai écrit dans mes notes le chapitre 2, mais c'est le chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 18 et, 20, et 19. Donc, on va commencer au milieu de verset 17. Il a dit, tu ne mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, car à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. À force de peine, à la sueur de ton visage, tu en tireras ta nourriture et le sol produira des épines et des ronces. Alors, c'est vrai que dans les petits jardins, les potagers, les ronces et les mauvaises herbes, ça pousse bien plus facilement que les légumes et tout ça. Hein? Dans Proverbe 16, verset 26, nous lisons, « Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. » Si on ne travaille pas, Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, donc il ne parle pas des malades, il ne parle pas de ceux qui ont chômage technique, etc. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça va de soi. On mange par ce qu'on a produit. Celui qui travaille, travaille pour lui, c'est-à-dire pour lui-même. Il travaille pour manger. C'est sûr que nous sommes dans une société qui facilite la vie. Hein? Mais quand même, entre la naissance et la mort, eh bien, il faut s'occuper. Il faut faire quelque chose. Et en principe, il faut produire quelque chose qui va permettre à manger. Parce que qu'est-ce qui va arriver si on ne mange plus? On va mourir, on va faciliter la question. Okay? Donc, il faut continuer à manger. Dans Ecclésiaste chapitre 1, vous pouvez tourner si vous voulez, c'est un peu après les psaumes, les proverbes, et puis les Ecclésiastes, chapitre 1, versets 2, 3, 4. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Donc, il parle de cette question de travail. Et il y en a du travail qui est vraiment pénible. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Quelle inutilité! Tout est vanité sous le soleil. Attention! Quand Salomon parle de sous le soleil, à travers ce livre de l'Ecclésiaste, il dit, s'il n'y a que la vie sur la planète, tout est vanité. Mais à la fin du livre, il va dire, ah ben, puisqu'il y a un Dieu, on n'est pas unique sous le soleil, on a un avenir éternel. Et donc, tout compte. Tout compte. Dieu va tout amener en évaluation, en jugement. Donc, comment on vit? C'est très important. Mais si on n'a pas cette optique, si on était par exemple comme la plupart des Français qui pensent qu'il n'y a que la vie sous le soleil, et on fait tout ce qu'on peut pour trouver un autre peu de vie en dehors, plus loin que le soleil, hein, parce que c'est que la planète Terre où on a vraiment trouvé de vie, hein, eh bien, si c'est que ça, eh ben, pourquoi pas voler? Pourquoi pas mentir? Pourquoi pas tuer? Pourquoi pas avoir tout ce qu'on peut avoir maintenant? Parce que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ça revient toujours à la même chose. Et comme j'ai dit, la vie moderne nous facilite notre survie, mais aussi elle est très fragile. Je parle de la vie occidentale. Hein? Vous imaginez, s'il y a une panne d'électricité, on nous a dit, je ne sais plus où c'était, c'est des informations, je pense. Il y a quelqu'un qui a proposé d'interdire l'électricité en France. C'était un ministre ou quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un a proposé une loi telle que ça. Et on a dit, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de travail, il n'y a plus à manger, qu'est-ce qui va suivre? La mort. Eh bien, aux États-Unis, il y a quelques années maintenant, on n'en a pas donné les détails, mais dans les informations, quelques années plus tard, ils ont dit qu'un certain pays avait fait un essai de terrorisme électronique. Et ils avaient visé, en anglais on dit the grid, le réseau électrique qui touchait la Californie et tous les États de l'Ouest. Ils ont pu couper l'électricité pour quelques jours là. Vous ne pouvez pas acheter dans le magasin parce que les magasins sont tous électriques. Même s'ils ont quelque chose pour garder leur congélateur en fonction pendant les pannes électriques, ils ne pouvaient plus fonctionner les caisses. Et si on ne peut pas fonctionner des caisses, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas acheter parce qu'eux, ils ne peuvent pas vendre. Imaginez donc, dans toutes les facilités qu'on a à survivre aujourd'hui, dans une panne d'électricité de 2-3 semaines, qu'est-ce qui va nous rester? Pas grand-chose. OK? En tout cas, nous devons vivre ici-bas, sachant qu'à la fin, chacun rendra compte à Dieu. Et on peut voir ça, je voulais le lire quand même, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, et les derniers deux versets du livre. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, il faut travailler. Il faut s'occuper. On a parlé de ça un petit peu la dernière fois. Il y a un enregistrement sur Internet un de ces jours. Vous pouvez rattraper ce message-là si vous voulez. Maintenant, on voudrait retourner dans Genèse chapitre 2, si je ne me trompe pas. Et le verset 15. Bien, c'est pas le bon verset. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est le verset 18. Ah, tous mes chiffres sont mauvais ce matin. Genèse chapitre 2 et verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on va parler de la sexualité et de la communion de vie. La solution à la solitude, c'est le mariage. Et la solution au désir sexuel, c'est le mariage. Donc, je ne parle pas d'une personne qui est célibataire et qui veut être célibataire. Et je ne parle pas de toutes les exceptions, hein, parce que la vie, c'est plein de choses, et puis on était marié, puis quelqu'un est décédé, etc. Donc on ne parle pas de toutes les choses, mais dans la conception de la vie, c'est comme ça, la solitude et la sexualité, Dieu a conçu le mariage pour résoudre ces questions-là. Donc Paul dit, pour éviter l'immoralité, et quand on dit l'immoralité, c'est l'expression de la sexualité hors mariage. pour éviter l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est comme ça. Je conseillais un homme récemment et j'ai dû revenir à ce verset-là. Ben, la solution est déjà dans la parole. Dieu a conçu qu'on se marie. Ça ne dit pas avec qui ou à quel bonheur on aura ensemble. Mais dans le fonctionnement de l'être humain et de la société, un homme et une femme se marient et Dieu résout des questions comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, il dit « Rendez à chacun ce que l'on lui doit, ce qui relève de ses droits de conjoint. » Verset 4, « Vous disposez chacun du corps de l'autre. » Dans le mariage, le corps n'est pas à moi, tout seul, mais le corps appartient à l'autre. On n'a même pas le droit de se priver. Verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre. » Eh bien, souvent, dans les disputes, la première chose, « Eh bien, tu ne vas pas me voir dans le lit. » C'est souvent comme ça. Hein? Ah non, la sexualité n'est pas une arme pour faire du mal à l'autre personne. Donc, au verset 10 et 11, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 11, « Ne vous quittez pas l'un de l'autre. » Et puis Jésus dit dans Matthieu 19, il dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, c'est-à-dire chacun est la solution de l'autre en ce qui concerne l'isolement et la sexualité. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et on le voit dans Genèse chapitre 2 et verset 24, « Ils deviendront une seule chair. » Aussi dans Genèse 1 et le verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » C'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Donc dans certaines pensées chrétiennes, la sexualité est en soi un péché. Il n'y a que les pécheurs faibles qui ont des relations sexuelles. Mais non, c'est dans l'humanité. C'est pas... C'est la première chose que Dieu dit. « Je fais l'homme et la femme et il y a des bébés. » Voilà. Et puis, en Genèse chapitre 3 et verset 20, Adam appelle sa femme Ève, car elle est la mère de tous les vivants. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ève. Elle allait donner naissance à des enfants. On voit dans Genèse chapitre 4 et verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et puis, au chapitre 4, verset 17, Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Et puis, un peu plus loin, Ada enfanta, et un peu plus loin, Tila enfanta. On lit dans Genèse chapitre 5, Adam était fait à la ressemblance de Dieu. Et quand Adam engendré un fils, il était ce fils à sa propre ressemblance, selon son image, c'est-à-dire étant soumis au péché. Et cela a été transmis jusqu'à nous. On est à l'image, non pas de Dieu directement, mais à l'image de Adam dans son péché, qui avait été fait parfait dans l'image de Dieu. Et ça continue. Seth a engendré, Enoch a engendré, Kenan a engendré, Mahalael a engendré, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un vous a engendré. Et quelqu'un m'a engendré. Ah ben, c'est toujours la même vie, hein, la vie que Dieu a créée dans le jardin. C'était propagé jusqu'à nous. Donc, on dit la procréation, parce qu'on ne crée pas les nouvelles personnes, mais on propage la vie qui est déjà en nous. Et puis, Marie n'a connu personne, parce que c'était un miracle. Elle a engendré, pas engendré même, elle a donné naissance à Jésus, qui est appelé le Christ. Okay? Qui était le Père, donc? Ben, Dieu. C'est pour ça qu'elle n'a pas un mari, mais Joseph était le père adoptif de Jésus, parce qu'il fallait quand même un homme pour protéger la femme et l'enfant. Mais l'enfant est né, était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc le point, c'est que on voit que depuis le début, la sexualité fait partie intégrale de l'être humain. À l'idée de Dieu, c'est-à-dire selon l'objectif que Dieu avait pour l'être humain, pour la sexualité est pure et bien et nécessaire. Ça donne une postérité. Et c'est à tout le chapitre 5, c'est la postérité. Ah, la postérité. Dans une des nouvelles traductions, on dit « Voici l'histoire d'Adam ». Ce n'est pas la question de l'histoire d'Adam. On a déjà l'histoire d'Adam. Ce qui n'est pas, on a besoin de la postérité d'Adam. Son fils et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, etc., etc., jusqu'à Noé. C'est la postérité. Et quand on a des enfants, on a une postérité. Donc, Paul dit, si vous n'avez pas de désir sexuel, ne vous mariez pas. Ce ne serait pas juste envers votre conjoint, que vous n'avez pas de désir sexuel quand l'autre le veut. Tandis que si vous avez trop de désir sexuel, Paul dit, mariez-vous. C'est normal. Bon, entre deux, il y en a qui peut gérer en attendant. Mais dans l'un cas et dans l'autre cas, il est prévu que soit on ne se marie pas, on reste célibataire, ou bien on se marie. On pense déjà à ces questions depuis l'adolescence, et c'est vrai que par faute des influences des médias et d'une culture un peu même exagérée dans le dérèglement, on pense même bien avant l'adolescence. Quelqu'un m'a dit qu'il était déjà un enfant qui pensait à ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux vont remettre la question de mariage à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Carrière d'abord, carrière. Ou bien l'éducation. On ne va pas penser à ces choses-là. Pourtant, on y pense. Et disons, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, que faire donc avec sa sexualité? Alors, les lois de Dieu et en principe de la société sont là pour protéger les uns et les autres. Pourtant, entre les mains des pécheurs, la sexualité a été pervertie. L'abus, la polygamie, donc on l'a déjà vu dans Genèse chapitre 3, la polygamie, diverses immoralités, la pédophilie, l'homosexualité, la prostitution, l'esclavage, l'union dite libre. Mille façons pour profiter d'autres personnes par la séduction et par la force. C'est ça l'histoire de l'humanité dans le péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18, le Seigneur dit, fouillez l'immoralité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Donc tout péché est extérieur de soi-même. Si on ment, on ment à l'autre personne. Si on vole, on vole l'autre personne. Mais l'immoralité sexuelle fait mal au plus profond de la personne. Les gens torturent leur propre personne et la personne des autres personnes. C'est-à-dire, quand on abuse d'une autre personne, on est en train de faire beaucoup de mal à cette autre personne. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que personne n'a le droit à faire le mal aux autres. Personne n'a le droit à la pornographie, à la prostitution, à la viol, à l'esclavage sexuel, à l'inceste, au free sex, toutes ces choses-là. On se donne le droit. On n'a pas le droit. Parce qu'on fait du mal à l'autre personne. Oh ben non, on est deux adultes consentants. On est consentants aujourd'hui, mais vous voyez ce qui est dans les informations récemment. Hein, des gens, des dames, qui ont, il y a 20 ans, dit, oh ben on est deux adultes consentants. Eh ben maintenant, elles portent plainte parce qu'elles n'étaient pas tellement consentantes à l'époque. Ça a gâché sa vie par la suite. Oh, c'est dans les informations, ces choses-là, aujourd'hui. Ben, si la dame et le monsieur avaient suivi le plan de Dieu, ça n'aurait jamais eu lieu il y a 20 ou 30 ans. Donc, attention, Annie, hein, parce que dans une société déréglée, on se croit avoir droit à tout, et pourtant, non. Devant Dieu, on n'a pas le droit à tout. Et à savoir qu'on fait du mal. Même quand il y a des jeunes qui vont coucher ensemble, et puis voilà, et puis, oh, il y a un enfant. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer le bébé, ou je vais garder le bébé, ou je vais garder le bébé, je vais la faire adopter, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, les enfants qui grandissent ne connaissant jamais leur maman ou leur papa, ou ni l'un ni l'autre, ça fait mal à l'enfant, même quand cet enfant devient adulte, de ne pas savoir d'où on vient. Bon, on sait, on vient d'Adam quelque part. Alors, parlons un peu du couple. Donc, dans Genèse chapitre 4 et le verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc là, c'est Dieu qui parle à Caïn après qu'il a offert le mauvais sacrifice. Il a offert les fruits. Et Dieu lui a dit que, ben voilà, tu es déprimé aujourd'hui parce que tu n'as pas agi bien. Et donc, je commence ici en parlant du couple parce que cette même structure de phrase se trouve dans chapitre 3 et verset 16. Okay? Regardez chapitre 3 et verset 16. Dieu parle à la dame, il dit à Ève, il dit, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ok? « Tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire tu vas vouloir dominer ton mari. » Ce n'est pas de dire « tu devrais vouloir dominer ton mari ». C'est pour dire que malheureusement, dans le péché, tu vas vouloir dominer sur ton mari, mais lui doit dominer sur toi. Donc, ce qu'on lit ici, donc c'est la même structure dont vous pouvez faire la comparaison déjà avec, plus tard avec ce que Dieu a dit à Caïn. C'est le principe de conflit dans le couple, qui est là depuis le péché. Tous les couples ont des conflits, même moi et Sophie. Oh ben non, ben oui. C'est là, parce que c'est homme et femme, deux cultures différentes. Donc, cet conflit est dans la nature pécheresse. Le conflit, plutôt, venant de la femme, et l'abus venant de l'homme. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? Je me souviens en Normandie, il y a un monsieur qui vient chez nous une fois, il se faufilait, il arrive, il dit, moi je ne peux pas rester longtemps parce que peut-être ma femme va me voir, puis si elle me voit, elle va me battre. Bon, ça alors. Donc ça arrive. Hein? Mais normalement, c'est l'homme qui utilise sa force pour faire du mal à une femme. Et puis, c'est la femme qui va utiliser sa féminité pour avoir ce qu'elle veut. C'est vrai que Dieu a désigné l'homme comme chef du foyer. Mais les hommes sous le péché sont égoïstes. Tout est égoïste. Moi aussi. Les hommes sous le péché sont égoïstes. Et on a forte tendance à abuser des femmes. On ne veut pas le faire, attention. Je ne dis pas que je le fais, je ne dis pas que je veux le faire non plus. Mais dans la nature de l'homme, c'est comme ça. Et c'est pour cela que Dieu ordonne aux hommes de faire le bien à leur femme, de l'aimer. Et Dieu a averti les couples de l'insoumission innée dans le cœur des femmes à cause du péché. C'est là, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu ordonne à la femme de respecter son mari. Respecter, ça veut dire de respecter l'ordre, la soumission, c'est qui est chef de la famille. On ne peut pas avoir deux têtes, donc la femme est soumise au chef. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas être chef de la famille, mais c'est ordonné par Dieu, soit le chef, et à la femme, soit son aide. Comment donc faire pour régler le problème? Un homme insensé va forcer la soumission. Tout va faire comme je veux. Ça, c'est pas très sage. Si on veut avoir une bonne relation avec sa femme, il va dominer sur elle par la force et par le contrôle. Il utilisera ses forces pour faire mal physiquement et psychologiquement à leur femme. C'est pas comme ça qu'on doit agir. C'est insensé, c'est pas bien. L'homme sage va dominer sa femme par l'amour, en prenant soin, on a parlé de ça un peu la semaine dernière, en prenant soin, en nourrissant sa personne, en veillant qu'elle soit heureuse et qu'elle atteigne à ses objectifs de vie. Donc, messieurs, voulez-vous que votre femme vous respecte et qu'elle te soit soumise? Eh bien, Marie, soyez digne du respect. Vous avez de la chance que votre dame ait consenti de partager sa vie avec toi, de faire route avec toi. Je me souviens dans le cours de théologie, quand j'étais dans l'école, le professeur disait, ah ben, vous pensez que c'est votre femme qui a la chance d'être avec vous, mais non, c'est vous qui avez la chance d'être avec elle. C'est l'optique. Comment vous regardez la vie? Il faut être reconnaissant que votre femme veut passer du temps avec vous. Hein? Parce que peut-être elles sont tous pareilles. Hein? À un certain moment, elles posent la question, est-ce que ça vaut la peine de rester là? Il n'est pas très gentil, mon mari. Donc, faire attention. Si la femme va respecter son mari de son cœur, hein, dans son cœur, il va falloir que le mari agit de manière digne du respect. Et aussi, les hommes doivent avoir quand même du respect pour leur femme. Mais ce n'est pas le seul à travailler. Son travail à elle est peut-être d'une grande valeur. Donc, on va regarder dans Proverbes chapitre 31. Proverbes 31. Donc, c'est une dame qui, en fait, c'est une dame au foyer. C'est une dame qui n'est pas sortie travailler elle-même dans les champs. Elle n'est pas servante. C'est la dame de la maison. Elle est la maîtresse du foyer. Pourtant, elle est une dame qui travaille. Et on va lire uniquement versets 11 à 16, Proverbes chapitre 31. Et versets 11 à 16, tout le chapitre parle de ça, enfin, tout le reste du chapitre, mais on va pas tout lire. À propos de cette dame de valeur, le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a des hommes qui n'ont jamais confiance dans leur femme. C'est pas bien. Un homme doit donner à sa femme confiance. Il doit à sa femme confiance. Bon, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, donc, elle fait à son mari du bien et non pas du mal. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle est active. Elle est Elle est habillée dans son activité à la maison. Elle fait même venir les choses. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ parce qu'avec les produits qu'elle a fait en faisant avec les laines et tout ça, donc elle a fait les vêtements et tout ça, eh bien elle les a vendus. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle regarde et trouve un champ. Elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, etc. Vous voyez, cette dame, elle n'est pas paresseuse. Et pourquoi les hommes vont traiter leurs femmes comme si elles sont paresseuses quand elles travaillent peut-être plus que lui? Vous voyez, comme je veux dire, il faut qu'un homme ait du respect pour sa femme. Et puis, à la fin du chapitre, il dit, récompensez-le. Donc, ça parle au mari concernant sa femme qui a fait tout ce travail. Récompensez-la du fruit de son travail. Il y en a des hommes qui ne permettent pas à leur femme de garder un centime. Tu vas faire des courses et tu me rends la monnaie. Tu fais ça et tu me rends la monnaie. Eh bien, je veux voir tous les centimes ici tous les jours. Ça, c'est le contrôle. Manque de respect, manque d'amour. Récompensez-le, ça veut dire donner plus à elle. Qu'elle a tout cet argent à sa disponibilité pour qu'elle puisse faire les affaires. Si elle est habillée dans cette chose-là, bah qu'elle le fasse. Hein? Récompensez-le du fruit de son travail et aux portes, ses œuvres la louent. Hein? Parce qu'elle est aux portes de la ville. Hein? Tout le monde connaît la réputation de cette dame-là. Prenez Nabal. Nabal, il n'y avait rien de respectable en lui. Donc Nabal était le mari d'Abigaël. Il était minable, ingrat, égoïste. Pourtant, sa femme le supportait et l'aidait. Lui faisait du bien. D'ailleurs, elle a protégé parce que David voulait le tuer. Et elle a persuadé David de ne pas tuer son mari. Elle n'a pas pris la fuite, comme elle a peut-être voulu faire. Elle ne l'a pas insulté, comme elle a peut-être voulu faire aussi. Mais à la fin, Dieu a libéré Abigaël par le décès de cet homme-là. Hein? Et Dieu lui a donné David à Marie. Dans tous les couples et familles, il y a du discorde. Ceci se règle par la bienveillance. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est une règle générale que Jésus nous a donnée tous en même temps. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est pour les hommes, les femmes, les enfants. Ça, c'est pour tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Ayez du respect. Marie, aimez votre femme. Donc, on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Femme, ayez du respect pour votre mari. Amour et respect pour la personne en entier. OK, donc j'ai une petite liste pour le corps. Amour et respect pour le corps, pour leur âme, pour leur esprit, pour leurs émotions, pour leur sensibilité. Hein, parce que donc, si je veux faire peur à ma femme, je vais trouver une araignée. Voilà une araignée! Ah! Donc, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas bien. On a encore en Normandie, on a entendu cette histoire de deux chrétiens. Donc, la dame n'aimait pas les cactus. Qu'est-ce que le mari chrétien lui a donné pour son anniversaire? Un cactus. C'est n'importe quoi. Il savait qu'elle n'aimait pas les cactus. Et il a fait quand même. C'est la méchanceté. Hein? Ça ne détombe pas que plus tard, ils étaient divorcés. Parce que il n'agissait pas bien envers elle. Amour et respect pour l'intellect. Ah, mais tu es bête, tu es stupide, pourquoi tu as fait ça? Non, 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 on ne parle pas comme ça. Pour leur histoire, hein, chaque personne a une histoire, un arrière-plan. Hein, on ne vient pas au mariage d'une ardoise tout propre. Donc, on a du respect et un certain amour pour leur histoire qui les a menés jusqu'à ce point de se lier avec vous.
leurs inquiétudes.
Ah, tout le monde a des inquiétudes. Et leurs aspirations. C'est la personne en entier. On va aimer et avoir du respect pour la personne. Et puis une dernière pensée, c'était dans Galates chapitre 6 et verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi du Christ. Ça vous revient à dire aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux. Donc ça, c'est difficile pour la femme ou ça, c'est difficile pour le mari. Bon, on va donner un petit peu plus d'aide dans ce domaine-là parce que cette partie du mariage est difficile pour l'autre. Donc, on va faire le nécessaire pour combler la lacune. On ne va pas dire, « Ah, mais tu brûles toujours les œufs. » Bon, écoute, demain, je vais faire les œufs moi-même. Vous voyez, on peut arranger pour que ça aille un peu mieux. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Donc, c'est loin, on est bien loin depuis Adam là. Ah, mais on a toujours la même nature. C'est ça la chose. Et un peu d'amour va loin pour avoir une bonne relation, que ce soit avec les gens autour de nous ou même dans notre couple ou dans notre famille. Donc j'espère que ça vous encourage quelque part ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.